à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Philippe Dazébrun, bonjour.
Bonjour.
Philippe Dazébrun, c'est une chance de vous avoir parce que vous êtes dans une période excessivement ou extrêmement active dans le cadre d'une association bien connue qui est l'Académie des Jeux Floraux, dont vous êtes le secrétaire perpétuel. Donc on va revenir sur ce sujet, bien sûr. Mais vous intéresserez aussi nos auditeurs à travers tout votre parcours. D'abord, votre parcours de professeur des universités. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Vous avez fait un doctorat sur Mauriac, je crois.
Non, sur Auguste Champetier de Ribes.
Auguste Champetier de Ribes. Bon, alors, on n'aura peut-être pas le temps de parler de votre doctorat. Mais en revanche, on parlera d'un ouvrage remarquable que vous avez sorti en 2021. Aux éditions du CERF, et qui s'appelle « Mauriac dans l'Église catholique ». Et c'est un ouvrage que je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs, parce qu'il est tout à fait remarquable, et il apporte un éclairage sur Mauriac, donc on va revenir là-dessus. Et avant, permettez que je vous présente en deux mots pour nos auditeurs. Vous avez 57 ans, ce qui est jeune pour un perpétuel. Vous êtes quand même secrétaire perpétuel de la plus vieille académie de France. Et donc, c'est évidemment, on reviendra sur ce sujet. Vous avez deux enfants. Vous êtes de la paroisse Saint-Simon, à côté de Toulouse. Et vous êtes, ce qui n'est pas si courant que ça, originaire de Bordeaux.
Oui. Je suis né à Bordeaux et mes racines ont été au fil de mon histoire personnelle paloise.
Ouais.
Donc je suis très aquitain finalement.
Très aquitain.
Mais avec une fidélité à Toulouse
quand
qui
même
est réciproque à l'accueil qui me fut fait ici.
Un aquitain occitanisé.
C'est ça.
Bon, eh ben, écoutez, on est ravis de vous voir dans cette radio qui est plutôt occitane elle aussi, même si elle déborde un peu sur l'Aquitaine. Donc, tout ceci pour dire et pour parler un peu de Mauriac, parce que Mauriac, finalement, c'est un personnage qu'on croit bien connaître, mais quand on lit votre ouvrage, on découvre des facettes du personnage qu'on ne soupçonnait peut-être pas de façon évidente si on ne s'est pas penché sur la question. Donc, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'apporte votre ouvrage par rapport à ce que connaissent la plupart des gens de François Mauriac ?
Les historiens luttent toujours contre la mémoire. Et il est vrai que la mémoire garde de Mauriac l'image du grand catholique qu'il a été, mais du dernier catholique qu'il fut, c'est-à-dire celui qui ne fut pas toujours d'accord avec certaines dispositions du Concile Vatican II. Finalement, l'image qu'ont conservé ceux qui se souviennent de Mauriac est plutôt celui du gaulliste très ardent qui défendait le général de Gaulle en toutes circonstances.
Ils sont morts d'ailleurs presque à la même
année.
La même année.
À 2-3 mois de distance l'un de l'autre. Le général de Gaulle est mort en novembre et Mauriac est mort en septembre.
En septembre,
70.
C'est ça, c'est ce que j'ai noté. Oui.
Donc c'est cette image-là que l'on garde, politique, et le catholique, je dirais, un peu conservateur, de la fin de sa vie. Et lorsqu'on regarde l'historien, lorsqu'il regarde le parcours de ce chrétien-là, dans son église, il y voit plutôt un contestataire.
Oui, c'est ça qui est étonnant, parce que ce n'est pas du tout l'image que j'en avais, moi, avant de regarder votre ouvrage.
Absolument. Mais du reste, vous savez, après le Concile Vatican II, il reste contestataire,
oui,
dans une certaine mesure.
Tout à fait. Il est cohérent.
Voilà, absolument. Non, je crois qu'il avait hérité, si vous voulez, d'une éducation qui lui a été difficile, du reste, de mettre à distance. Hein. Une éducation très rigoureuse, très religieuse. Quasi espagnol, dit Jean Lacouture. Et d'un autre côté, du côté paternel, d'un père absent, puisque son père meurt alors que le jeune Mauriac n'a que 20 mois, mais présent par la tradition familiale paternelle, incarné par son oncle, tuteur des enfants, qui est plutôt républicaine et irreligieuse. Et donc ce mélange tout à fait explosif a fait l'esprit contestataire, l'esprit de contradiction que fut Mauriac dans son milieu. Et je crois que c'est, me semble-t-il, l'un des rares de la fratrie, puisque quand on regarde les cinq enfants Mauriac, lui étant le Benjamin, le dernier-né, il fut bien celui qui fut le plus contestataire.
Ah oui. D'ailleurs, vous mettez une très belle phrase en exergue de votre ouvrage qui dit, alors de mémoire, il écrit à un dominicain, je crois, en lui disant « Je n'aurais pas pu être un homme d'église, je suis beaucoup trop contestataire pour ça. »
C'est vrai, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je n'ai trouvé de meilleur sous-titre à cet ouvrage que « La fidélité aux aguets », car il fut fidèle. Ça, c'est tout à fait remarquable de la part de ce catholique, c'est qu'en dépit de tout ce qu'il pouvait l'agacer, de tout ce qu'il pouvait souffrir aussi, hein, de certaines condamnations de l'Église sur lesquelles nous reviendrons peut-être durant tout son parcours de témoin du Christ, eh bien, il fut fidèle. Et il fut fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il considérait que l'Église était porteuse de deux paroles qu'il considérait comme indépassables et pour lesquelles il se serait sacrifié s'il fallait y renoncer, c'était les deux phrases du Christ qui instituaient le sacrement du pardon et le sacrement de l'Eucharistie. Voilà. Pour lui, l'Église se résumait à ces deux paroles qui étaient l'essence même de sa fidélité aux aguets.
Bon, mais... On est bien d'accord avec lui là-dessus, je pense que les catholiques sont bien d'accord là-dessus. Et c'est vrai que justement, je discutais de cette histoire du pardon, si on peut parler d'histoire, avec un théologien il n'y a pas longtemps qui me disait « Mais finalement, on est la seule religion qui a institué le pardon. » C'est-à-dire que le Christ est arrivé en nous donnant le pardon et aucune autre religion dans le monde n'a fait du pardon un de ses vecteurs de la foi. Et je trouve que c'est effectivement l'amour et le pardon qui ne sont pas la même chose. Parce qu'on peut très bien aimer et ne pas avoir ce sentiment du pardon. Et Mauriac était totalement fidèle à cette pensée du Christ.
Oui. Ah oui, absolument. Et c'est pour ça que sa foi est essentiellement christique.
Oui.
Il le dit, hein, il n'a pas l'esprit philosophique. C'est un romancier, c'est un créateur de personnages, un créateur de destins. Et cette histoire du Christ, pour lui, est tout à fait fondamentale parce qu'elle lui révèle Dieu. Il ne pouvait pas, dit-il, atteindre Dieu s'il n'y avait eu le Christ. Et le Christ a apporté ces deux paroles qui sont réconciliatrices. Réconciliatrices.
Et alors, vous êtes dans une académie, vous êtes secrétaire de la Société internationale des études mauriaciennes. Donc, il y a une société internationale qui, au fond, fait vivre la pensée de Mauriac et la personnalité de Mauriac.
Oui, nous sommes, je crois, à peu près une cinquantaine de par le monde à travailler sur ce personnage, à travailler sur cette œuvre qui est inépuisable, puisque ces études mauriaciennes ont été créées à la mort de l'auteur, c'est-à-dire il y a maintenant 50 ans, plus de 50 ans. Et chaque année, nous avons des rencontres universitaires, des colloques, des journées d'études. Chaque année, il y a des publications. C'est une œuvre qui est féconde, très féconde pour
nous. Oui, c'est une mine, finalement.
Absolument. Ouais. Et alors, chacun a, je dirais,
son prisme,
sa tonalité, à son... Oui, à son prisme. Et le mien, c'est la religion qui est, me semble-t-il, matricielle dans l'œuvre mauriacienne. Je crois qu'on ne peut pas comprendre les romans de Mauriac, on ne peut pas comprendre les engagements politiques de Mauriac s'il n'y a pas cette dimension religieuse.
Est-ce que c'est un auteur qui est toujours lu, enseigné, ou est-ce qu'il y a un côté un peu... dépassé, mode dépassé?
Oui. Vous savez, chaque auteur entre dans son purgatoire après sa disparition. Mais dans le purgatoire littéraire, il y a des nuances. Certains sont plus enfoncés dans le purgatoire que d'autres. Mauriac arrive tout de même à affleurer à la conscience commune, non pas par les romans, parce que je crains, hélas, que les jeunes lecteurs aujourd'hui n'aient pas toutes les clés pour entrer dans ces romans. C'est un fait, je dirais, sociologique. Hein. Et je mets de côté la compréhension de la langue, car le style de Mauriac est un style très, je dirais, chateaubriand, et que beaucoup de jeunes lecteurs aujourd'hui n'atteignent pas. Mais il y a aussi, je pense qu'il affleure à la conscience commune par ses engagements, par l'histoire, par le fait qu'il fut un journaliste et un journaliste engagé.
Des journalistes au Figaro.
Au Figaro, puis à l'Express.
Et à l'Express.
Et ensuite au Figaro littéraire. Mmh. Car il avait une fidélité à soi-même, mais qui n'était pas forcément celle d'une droite ligne qu'on aurait pu attendre de sa part.
Non, mais c'est quand même revigorant de voir que un auteur chrétien, il y en a d'autres, je pense par exemple à Gustave Thibon, qui est plus philosophe que romancier, mais qui a quelques odeurs chrétiens, revendiqués chrétiens, affirmés chrétiens, catholiques en l'occurrence, qui restent d'actualité et qui ont une pensée féconde. Et je trouve que c'est formidable qu'il y ait cette association que vous animez en partie, internationale, qui au fond fait vivre la pensée.
Oui, nous avons des collègues au Japon, nous avons des collègues en Angleterre, nous avons des collègues en Italie, et tous ces confrères et collègues nous apportent leur regard, car c'est aussi un choc culturel. Vous savez, quand les Japonais nous parlent de Mauriac, il y a une fraternité, hein, il y a une fraternité entre nous, mais il y a aussi des regards qui sont différents.
Oui, surtout qu'au Japon, la religion catholique, les chrétiens en particulier, n'a pas pris, enfin ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Donc c'est pas le côté chrétien qui les amène à Mauriac.
Pas forcément, mais certains oui.
Certains oui quand
oui,
même.
Oui, tout à fait.
S'il y a une petite communauté, elle est toute petite au Japon, catholique. Oui. Bien, Philippe Dazébrun, merci pour ce témoignage et la façon dont vous faites vivre ce grand auteur du XXe siècle qui est encore d'actualité aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle maintenant d'une seconde facette de votre personnage. C'est votre engagement dans l'Académie des Jeux Floraux. Alors, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent, ont un peu entendu parler de l'Académie des Jeux Floraux, mais puisque vous en êtes le secrétaire perpétuel, vous êtes le mieux placé pour nous rappeler ce qu'elle est précisément et nous dire ce qui va arriver dans quelques jours, puisque traditionnellement c'est le 3 mai que se réunit cette académie dans une grande... Mais enfin, je vous laisse nous expliquer ce qu'est l'Académie des Jeux Floraux.
Oui, c'est un grand paradoxe à la vérité. C'est, voilà une institution qui va fêter son 7e centenaire.
Ouais.
Son 7e centenaire.
Plus vieille académie de France.
Oui. Et qui n'est pas si connu que ça parmi les Toulousains. Bon, on peut le considérer du fait que 12 000 personnes arrivent chaque année à Toulouse et viennent d'ailleurs et ne sont pas censées connaître l'histoire des troubadours et de leurs successeurs dans le midi de la France. Donc on peut le comprendre. Mais il est vrai que si nous fêtons notre 7e centenaire, c'est qu'il me semble 7e centenaire d'un appel, je le rappelle, de 7 amateurs de poésie, qui n'étaient pas tous poètes du reste, hein, à concourir. Donc ceci se fait en novembre de
l'appel
l'an 1323,
1323,
et l'appel au concours pour le mois de mai 1324. Voilà pourquoi le centenaire, le 7e centenaire que nous fêtons, va couvrir 2 années, hein, forcément.
Ouais.
Et donc ces 7-là, ces 7 fondateurs, ont trouvé un écho tel, à la fois auprès des poètes de Languedoc qui sont venus concourir au mois de mai, et auprès de la municipalité de l'époque, composée de Capitoul, cet écho fut tel, et populaire aussi, que la tradition est demeurée, et elle est demeurée très vivace en 700 ans, jusqu'à nous, en surmontant toutes les péripéties de
l'histoire. Toutes les vicissitudes de l'histoire.
Absolument.
Elle n'a jamais été, même au moment de la Révolution, il n'y a pas
Alors, il y a eu quelques interruptions dues, on en sait quelque chose, aux guerres, aux épidémies, Et pendant la période du Covid, on a dû ne pas... effectivement, on n'a pas dû se réunir.
Vous
n'avez
pas pu vous réunir.
Et puis, d'autre part, effectivement, pendant la Révolution française, mais là, c'était la loi commune à toutes les sociétés savantes et académies de province qui furent interdites et dissoutes par volonté des révolutionnaires. Mais leurs activités ont repris en 1806.
Oui, donc très rapidement...
Voilà, 15 années après. 15 années après. Et donc, cette tradition, me semble-t-il, dit quelque chose de l'âme toulousaine.
Oui.
Voilà. Je pense que vous avez fait référence tout à l'heure à mes racines aquitaines et je dois dire que lorsque je suis arrivé ici, il y a maintenant près de 30 ans, je me suis aperçu de ce que je n'avais pas connu par ailleurs, qui était cet amour des mots, ce bouillonnement poétique à Toulouse, avec de très grands poètes et de très grands amateurs de la verbe, du verbe poétique et de la verve poétique. Donc, il y a quelque chose qui demeure. Et ce 7e centenaire, me semble-t-il, certes va célébrer les Jeux floraux de Toulouse. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, le ministère de la Culture a estimé que nous étions détenteurs là d'une tradition qu'il fallait honorer et reconnaître en nous donnant le label de patrimoine culturel immatériel national.
Ça, c'est nouveau, national.
Ça date de l'année dernière, de décembre de l'année dernière. Donc, je pense qu'en nous attribuant cette reconnaissance-là, ils ont reconnu en Toulouse quelque chose qui a traversé le temps et qui est toujours pérenne.
Et qui est très original.
Et qui est très original et qui ne se retrouve nulle part ailleurs.
Oui, parce que des académies faisant des concours de poésie, est-ce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire? Est-ce que vous avez essaimé?
Non. Alors, il y a d'autres, pas académies, il y a d'autres concours qui portent le nom de Jeux floraux en France et ailleurs, mais d'académies, nous sommes la seule. Et dans l'ensemble que constitue la Conférence nationale des académies, qui est une institution placée sous l'égide de l'Institut de France, nous sommes la seule académie qui a pu intégrer cette vénérable institution par le seul fait de son antériorité, alors même qu'elle n'était pas pluridisciplinaire.
Ah oui. Et m'a-t-on dit, mais vous allez me confirmer si c'est vrai, que l'Académie française, qui est bien postérieure à l'Académie des Jeux floraux, mais s'est inspirée des statuts de l'Académie des Jeux floraux pour créer les propres statuts qui sont toujours en vigueur également à l'Académie française. Est-ce que c'est vrai?
Ça, je ne pense pas. Là, comment écorner un peu de mémoire.
L'historien
doit
parler. Locale.
Oui, en effet. Parce que l'Académie française fut créée avant l'Académie des Jeux floraux. Les Jeux floraux ont été créés avant l'Académie française.
Ah,
c'est-à-dire
oui,
qu'il
alors,
faut distinguer l'Académie et les Jeux floraux. Les Jeux floraux ont été institués, comme je l'ai dit, en 1323 à 1324. Là, la compagnie des sept fondateurs est devenue la compagnie du gai savoir, c'est-à-dire de la poésie.
La compagnie puis, du gai savoir.
Voilà, le consistori du gai sabé, comme on dit en
Languedoc.
Et ensuite, nous sommes devenus collège de la rhétorique au XVIe siècle, au moment où nous basculons dans le français. Et à la fin du XVIIe siècle, en 1694, Louis XIV nous érige en académie.
Ah oui.
Donc c'est plutôt la tradition des Jeux floraux que nous allons fêter que l'Académie en soi. L'Académie est une coquille, en quelque sorte, dans laquelle cette tradition demeure et est perpétuée et est maintenue puisque nous sommes mainteneurs.
Alors, il y a 40 mainteneurs, c'est ça?
Oui.
Un peu comme à l'Académie française.
Oui.
Hein, et ces mainteneurs, donc, organisent chaque année le concours de poésie. Il n'y a pas que de la poésie, etc. Mais... pour le 7e centenaire, je crois que vous avez une idée originale qui est de lancer un concours sur l'ensemble des gens qui parlent français. Je ne dis pas de la francophonie parce que ça serait réducteur même, mais un concours de langue française internationale. C'est bien ça?
C'est ça. L'enracinement, nous le gardons. C'est-à-dire que la langue d'oc a toujours été, je dirais, choyé au sein de l'Académie. Et du reste, le 4 mai, après le 3 mai, qui est la date traditionnelle du dévoilement du palmarès, qui se fera salle des illustres.
Salle des illustres, comme chaque année.
Comme chaque année. Le 4 mai, nous réitérerons l'appel des 7 premiers avec nos maîtres à jeu, autre catégorie d'académiciens, de langue d'oc, qui vont restituer l'appel des 7 premiers. Et nous allons avoir un autre appel à l'écriture poétique, à l'international, avec des poètes internationaux de langue française, à la suite de cette réitération du premier appel.
Oui. Et là, vous avez déjà donc ces sept troubadours modernes,
oui,
qui vont reprendre le flambeau des sept fondateurs, finalement, en lançant cet appel international. On peut savoir là qui est-ce, qui sont les noms,
Ah oui, nous avons alors une néo-calédonienne qui est Imazango, nous avons Marc-Alexandre Obambé, qui est un grand poète slameur.
Slameur camerounais.
Absolument. Nous avons Samira Negrouche, qui est algérienne. Nous avons, mes souvenirs...
Il y a un haïtien aussi.
Oui, Jean d'Amérique. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus connaisseur que moi de ceux qui vont faillir l'appel, c'est formidable.
Je me suis renseigné.
Absolument, oui. Et donc, en fait, ils sont sept. Il y aura Jean-Pierre Siméon, qui est le grand poète français que nous connaissons, puisque forcément, la France ne peut pas s'exclure de cet ensemble en français tout de même.
Heureux.
Nous avons aussi Serge Peille, qui est un poète toulousain immensément reconnu. Donc voilà, nous aurons sept qui viennent, Daniel Okunji, qui est congolais. Voilà, nous aurons ces sept-là qui lanceront cet appel à concourir au-delà des frontières françaises.
Et donc, cet appel étant lancé le 3 mai ou le 4 mai 2023, les lauréats seront connus en 2024, au mois de mai 2024.
Voilà.
C'est ça.
Et nous égrainerons toute cette année, je pense qu'effectivement Radio Présence en fera l'écho, de cérémonies où, par exemple... nous dévoilerons le graphisme du timbre, puisque nous aurons un timbre de la Fondation des Jeux Floraux qui sera émis. Nous aurons aussi quelques concerts. Enfin, nous allons, je l'espère, avoir la joie d'être à l'origine d'une grande fête toulousaine qui se saisira de sa vraie identité du verbe.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, sous votre impulsion et quelques-uns des mainteneurs autour de vous, c'est qu'on a le sentiment d'une renaissance de cette académie. Parce que c'est vrai que quand on a 700 ans, on est une vieille dame en quelque sorte, et on pourrait se dire, bon, c'est un peu de l'entre-soi qui reste empoussiéré dans quelques bibliothèques. Et pas du tout, cette académie est extrêmement dynamique, c'est vrai.
Et elle est dynamique parce qu'elle se ressource.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes là pour servir la poésie. Ouais. Et c'est un grand bonheur que d'accueillir de grands poètes aujourd'hui, comme Yves Namur, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, comme Vénus Kourigata, Tahar Bekri, Hélène Dorion, la Québécoise, qui entre dans les programmes du baccalauréat français de son vivant.
Ouais.
Donc nous avons... Toutes ces personnes qui viennent chez nous à l'académie et qui sont prêts, parce qu'ils sont convaincus de ce que nous y faisons, c'est-à-dire servir l'art qui est le leur.
La poésie est quand même, je trouve, une façon aussi de s'élever, de sortir du quotidien, de sortir des problèmes de soi-même. Je trouve que vous faites vivre cette tradition. Une dernière chose, parce que vous avez employé la poésie slamée, c'est quoi ?
Ah, la poésie slamée, alors c'est quoi ça ? Nous entrons là dans des définitions qui vont dépasser les 2 minutes qui nous restent.
Oui,
Marc-Alexandre Obambé,
oui.
Pourrait vous... Je pense que la poésie slamée, c'est du rythme audible.
Oui. Oui.
Certes, dans toute poésie, il y a une prosodie. Il y a, il y a un sac et un ressac.
Oui.
Mais là, il y a une expressivité. Il y a un rythme balancé.
Et c'est chanté ?
Pas forcément. Il y a le rythme. Et ce rythme-là donne un tempo qui est particulier au slam.
Et il y aura une représentation de poésie slamée, je crois, prévue.
Oui. Ce qui est prévu, c'est que, effectivement, parmi les grands prix qui vont être créés à l'occasion de ce 7e centenaire, il y a un grand prix de l'Académie qui récompensera un poète international, français ou d'ailleurs, du reste.
Ouais.
Il y aura un prix dédié à un jeune à l'international ou français, qui sera le prix Victor Hugo de l'Académie, puisque Victor Hugo fut un de nos jeunes lauréats. Et puis, il y aura un prix de poésie slamée.
Ouais. Et qui sera en public.
Qui sera en public.
Salle des Illustres.
Non, pas Salle des Illustres. Il est prévu que ce soit au Jacobin. Mmh. Et avec l'expression dans le choix des lauréats populaires du public qui sera là. Donc nous revenons à nos sources.
Ah, formidable. Eh bien, monsieur le perpétuel, si vous permettez que je vous appelle comme ça, monsieur Dazébrun, merci pour toutes ces explications. Merci pour ce que vous faites aussi pour faire connaître la ville de Toulouse à travers l'Académie des Jeux Floraux. Et merci pour ce que vous faites pour la poésie, qui est une autre façon d'élever l'âme. Donc, merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous de votre accueil.